RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais.
Olivier Bobineau, bonjour.
Bonjour.
Avec le dessinateur Pascal Magna, vous vous êtes engagé dans un travail monumental, ambitieux et complexe, raconter en bande dessinée 20 siècles de l'incroyable histoire de l'Église. L'intégrale de ce travail vient de paraître aux éditions Les Arènes, 584 pages d'érudition, mais aussi d'humour, parfois un peu décalé, dans les dessins de Pascal Magna. Olivier Bobineau, vous êtes sociologue et politologue, spécialiste des religions et notamment du lien entre religion et politique. Vous avez publié au CNRS Éditions L'Empire des Papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église. Alors, quelle a été votre intention, Olivier Bobineau, en vous lançant dans une telle aventure éditoriale ?
J'avais une folle envie. L'envie, c'était de rendre accessible 20 années de travail académique et scientifique, rendre possible à la compréhension pour les lecteurs les 4500 livres qui se promènent dans mon esprit et qui ont trait à religion et politique au prisme de l'histoire des papes.
Très important ce prisme dès le début de positionner que c'est un livre qui met en parallèle, je dirais, l'histoire de l'Église et la politique et la place de la politique dans l'histoire de l'Église.
En effet, la politique, mais aussi l'argent, mais aussi la sexualité, mais aussi la théologie. On a là peut-être en format Bible, si je puis me permettre, je connais vos auditrices et vos auditeurs, on a là en format Bible une petite encyclopédie politique, certes religieuse, sociologique, économique, sociale, culturelle et même artistique peut-être.
Vous dites cette longue histoire est un combat entre la mystique et la politique depuis les origines et tout au long des 20 siècles d'histoire. On sent bien dans votre intention, vous avez montré, je dirais, la mystique que Jésus a enseignée. Et puis, ce que l'Église catholique en a fait, dans un grand combat.
Oui, au fond, il y a une dialogie. Il y a la paix et la guerre, il y a la grâce et la violence, il y a l'agapé, l'amour sans condition infinie, quoi que tu me fasses, je serai là, de l'alliance. Et de l'autre côté, il y a la stratégie politique, il y a l'enveloppé et l'enveloppe. L'enveloppé, c'est l'agapé, et l'enveloppe, c'est l'institution. Il y a le vin, et puis c'est l'amour, et puis il y a la bouteille, et c'est l'institution, et ses relations stratégico-politiques au fur et à mesure de son histoire.
Jésus, vous le présentez dès le début, c'est un réformateur du judaïsme, parce que vous le mettez tout de suite en scène pour dire il n'est pas du tout ce que vous imaginez.
Pas du tout ce que vous imaginez, en effet, Thierry. Il n'est pas du tout ce Jésus-Christ de la Renaissance, blond vénitien aux yeux bleus. Il est, au regard des travaux d'archéologues et de collègues écossais, il est petit, basané, cheveux crépus, une dentition. Ben, on imagine bien qu'il n'y a pas un brossage de dents 3 fois par jour. Par conséquent, c'est un homme généreux, gentil, présent, jovial et qui est le fruit du soleil.
Mais alors cet homme-là, c'est un réformateur du judaïsme d'abord, ou c'est lui qui a instauré l'Église catholique ?
Alors, c'est un réformateur, il opère 16 ruptures que nous développons avec Pascal, le dessinateur, dans le premier chapitre. C'est un réformateur par rapport à la tradition sémite et juive dans laquelle il est né et il s'inscrit, mais également en proposant ce qui, à mon sens, constitue la révolution de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'agapé. Je te pardonne, le pardon des ennemis, hostis en grec, celui qui va me tuer, je pardonne même celui qui va me tuer.
Donc agapé, vraiment au sens de l'amour
inconditionnel, sans condition, c'est ce que j'appelle à un moment donné dans cette BD l'amour hors mesure. Et il ne va pas fonder la mesure qu'incarne l'institution. Ça, c'est bien après. Et notamment l'institution papale, il ne faut pas oublier, c'est en pleine chute de l'Empire romain au 5e siècle qu'elle va s'établir et se construire.
Alors, on apprend dans cette bande dessinée énormément de choses, justement sur le rôle de plus en plus important des papes au cours de l'histoire. Vous montrez bien ce développement du pouvoir. Alors même, c'est imagé, parce qu'on voit un pape qui est gonflé. Il faut voir, les dessins sont d'une inventivité, mais très explicite par moments. Et donc, ce pouvoir du pape, alors il nous faudrait des heures pour le développer, mais comment s'est-il mis en place, je dirais, des origines jusqu'à aujourd'hui ?
Autour de 500, il est théorisé. avec l'idée que les papes sont non seulement responsables du salut des personnes, mais également du salut des rois, c'est-à-dire y compris donc des États, puisque le roi le chef est le chef d'État ou l'empereur est un chef d'État d'un empire. Par conséquent, ils ont en main les consciences personnelles, mais également les consciences collectives. Ceci va faire quelques frictions, et donc on va arriver à un moment donné où le salut, la politique va faire de la religion un instrument, et ça va donner des excès. Ça va donner des excès, le concile cadavérique au IXe siècle, où c'est un pape, Étienne VI, qui va déterrer son prédécesseur, Formose, pour l'empaler et le juger au nom du dieu Amour avec 16 théologiens pour le remettre ensuite le cadavre dans les mains du peuple de Rome. Pourquoi ? Au nom du fait qu'il a été un souverain pontife, mais surtout parce qu'il était sous la tutelle des germaniques, et que là, c'était un pape qui était en lien avec les familles italiennes, romaines. Et là, au bout de 500 ans, les papes vont dire, et les moines, notamment à partir du concile de 909, vont dire, ça suffit, on est corrompu par la politique, il nous faut la réforme grégorienne. 1000 ans, et 500 ans encore après, ils vont prendre du pouvoir parce qu'il va y avoir l'avènement de la religion protestante, en 1517, avec les thèses de Luther, et par conséquent, elle va devoir réagir. Et donc, elle va construire ce que j'appelle une civilisation paroissiale avec un cadre, un homme de proximité qui s'appelle le curé, qui va prendre soin, en latin, cura animarum, et ensuite, 500 ans plus tard, c'est la fin de la civilisation paroissiale. Voilà, par tranche de 500 ans, résumé, c'est 20 ans de travaux.
L'entretien de la semaine. RCF.
Olivier Bobineau, nous poursuivons sur RCF rapidement la présentation de ces 20 ans de travaux condensés en 584 pages de bande dessinée, l'incroyable histoire de l'Église. On voit, en lisant cette histoire, les excès absolument incroyables de ce qui a pu se passer dans l'histoire de l'Église, des excès dans tous les sens, au niveau de l'argent, au niveau de la sexualité, au niveau de la perversion, mais on voit aussi apparaître régulièrement des images de sainteté, des figures de sainteté. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'Église est dans ce balancement permanent entre perversion et sainteté ?
Mais absolument. Et vous savez, c'est ça, finalement, sa force, sa faiblesse, qui fait qu'on peut l'admirer, mais ce qui fait qu'on la déteste. Il faut savoir que l'origine, au départ, c'est une habilitation dirigée des recherches, il y a quelques années, et j'étais conseiller scientifique au ministère de l'Intérieur, et le préfet en charge du bureau des cultes me dit « Explique-nous la réussite de cette internationale catholique », lui ayant été un ancien trotskiste, donc il se demandait quel est le succès de l'Église catholique. Et ma réponse, au bout de plusieurs années de recherche, de lecture, d'écriture, de compréhension, de dialogue avec d'autres collègues chercheurs, eh bien c'est simple, c'est que l'Église embrasse la condition humaine avec ce qu'elle a de plus diabolique, de plus mortifère, les guerres de religion, l'Inquisition, un Torquemada, ou quand à un moment donné l'Église catholique n'est pas très engagée au niveau public durant la Seconde Guerre mondiale, avec des papes qui ne jouent pas leur rôle pleinement, mais de l'autre, des saints, des hommes et des femmes incroyables, saint François d'Assise certes, mais également des saintes, des saints Augustin, des Thomas d'Aquin, ou encore tout simplement des prêtres qui vont fonder des missions à l'étranger. Je parle ici dans les missions étrangères parisiennes. Oui, ceci est de la sainteté, c'est du diabolique, c'est du divin, c'est la condition humaine.
C'est de l'humain.
Oui.
C'est un combat permanent, on le voit, entre mystique et politique, entre Dieu et diable, entre le dénuement et l'argent, entre l'intelligence et la manipulation. On sent ça en permanence dans votre bande dessinée.
En permanence. C'est un Janus, c'est le Janus catholique.
Comment s'est développé le cléricalisme ? Alors là aussi, il nous faudrait des heures d'émission, mais on voit aujourd'hui le pape François, et vous le présentez bien dans la fin de la bande dessinée, lutte contre le cléricalisme. Comment est né ce cléricalisme ? Allez, en quelques mots.
C'est une asymétrie de pouvoir. Si j'ai le pouvoir du salut sur toi, y compris avec cet instrument redoutable, comme signalé par le savant et sociologue Max Weber, le confessionnal, j'ai un pouvoir sur toi, à un moment donné, sur ta conscience et ton salut. Le salut étant l'état de vie supérieur dans l'au-delà. Par conséquent, à un moment donné, ces hommes, ils vont prendre le pouvoir, ils vont devenir des clercs. C'est-à-dire qu'au lieu d'être au service de l'amour évangélique, ils vont en faire un instrument de domination, ce qu'on appelle le pouvoir sûr, pour reprendre l'expression du philosophe Paul Ricoeur.
Allez, juste pour donner une idée, dans la bande dessinée, un homme va rentrer dans le confessionnal, son cerveau est ouvert, et on enlève ACDC pour mettre Abba à la place. Juste pour vous donner une image de la manière dont c'est ce que vous nous expliquez, de manière docte, est expliqué par le dessin. Olivier Bobineau, comment le pape François, on en arrive actuellement à cette fin de votre bande dessinée, comment le pape François est-il en train de se positionner en tant que pape? Vous qui avez énormément étudié l'histoire de tous les papes, comment vous définiriez ce qu'il vit aujourd'hui? Et j'oserais presque utiliser le mot de son combat aujourd'hui.
Oui, c'est un combat difficile. Il y est confronté, et on le voit bien encore aujourd'hui dans certaines de ses décisions sur la liturgie romaine ou pas en langue latine, au détriment de la langue vernaculaire qu'il assume et qu'il veut voir se déployer dans l'ensemble des cérémonies religieuses. C'est l'inverse de Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux disait « L'évangile est au service du développement politique de l'institution. » François, il renverse cela pour dire « c'est l'institution qui doit être au service de l'évangile ». Sauf qu'une institution, ça on l'apprend, je l'apprends à mes étudiants, une institution, elle ne vise que sa stabilité. D'ailleurs, institution, ça veut dire un état, une statue. Ce sont la même racine latine, étymologiquement parlant. Par conséquent, il a affaire à toute personne qui sont intéressées, ne serait-ce que parce qu'ils sont employés, parce qu'ils sont dépendants, parce qu'ils ont leur identité construite par cette institution. Et lui, il arrive en disant, c'est la périphérie, c'est l'évangile, c'est l'amour hors mesure. Donc évidemment, l'institution, par définition, lui offre de la résistance, beaucoup de résistance.
Merci beaucoup Olivier Bobineau. Il faudrait des heures pour découvrir toute la richesse de ces 4500 livres que vous avez lus, hein, pour condenser et faire cette bande dessinée, l'incroyable histoire de l'Église que vous publiez aux éditions Les Arènes. Merci pour ce travail monumental.
Merci.
Vous m'avez bien fait rire parfois.
Merci. Oh super. Thank you.